RCF.
Aujourd'hui, pour notre émission Un livre ouvert, nous sommes très heureux de recevoir M. François Chirpaz, que certains d'entre vous connaissent parce qu'il était professeur de philosophie au lycée Berthollet, voilà, et puis ensuite à l'université. Et je vais laisser la parole à Pascal qui va vous parler. Donc, on va parler de deux livres. Tout d'abord, un livre qui était un entretien.
Ben, c'est l'occasion un petit peu de retrouver François. On vous avait un petit peu perdu depuis quelques temps. Donc, on est très heureux de votre grand retour aujourd'hui à la radio. À l'occasion de deux livres qui paraissent. Le premier s'intitule « François Chirpaz, chemin de philosophie ». Et c'est un livre d'entretien que vous avez eu avec Emmanuelle Bruyas, qui était une de vos anciennes élèves. Alors, racontez-nous un petit peu la genèse de ce livre.
Eh bien, c'est elle qui a eu l'idée de ce livre. Moi, je n'avais jamais pensé à cette chose-là. Pas plus que je n'avais pensé à écrire mes mémoires. Ça, je n'en suis pas capable. Et alors, un jour, elle me propose ça au téléphone. Alors, on a commencé à travailler là-dessus et à voir un peu ce qu'on pouvait faire. Et d'abord, initialement, avec des bandes d'enregistrement, mais ça lui donnait un travail invraisemblable. Alors, on a choisi la formule, disons, par les échanges...
Mail.
Par les gens, mail, oui.
Courriel, pardon.
Oui, et verbaux aussi, quand même, aussi. Non, pas du tout.
Verbaux, oui, mais alors, c'était précisément comme elle était à Lyon, alors, et puis, donc, moi ici, elle envoyait des questions, je reprenais, et puis on a rediscuté, je ne sais combien de fois.
Alors, mais... pour moi, ça serait facile. Justement, de reprendre ces questions et puis vous les poser. Mais bon, je vais le faire pour la première, mais vous ne ferez pas aussi long que dans le livre quand même. Hein,
ouais,
un peu plus court. Alors, la première question qu'elle vous a posée, c'est pourquoi avez-vous fait le choix de la philosophie et quel a été le moteur de votre décision initiale ?
Ah ben,
Faites pas aussi long que dans le livre, hein, la réponse.
C'est pour ça que je vous dis là, ce que je disais là, c'est que cette préoccupation première était d'être un pédagogue. Et de fait, j'ai fait mon secondaire, pour ne rien vous cacher, chez les jésuites à Lyon, et donc je suis d'ailleurs très content. Et alors j'ai rencontré là-bas, bon, il y avait des pédagogues médiocres, mais il y en avait d'excellents, je veux dire ces gens qui vous ouvrent à des univers. Alors que ce soit l'histoire, comme j'étais en section littéraire, l'histoire, la littérature, le latin, le grec et tout et tout. C'est donc parti de là. Et puis alors, le jour où en terminale j'ai rencontré la philosophie, je me suis dit, c'est la philosophie que je veux faire. Avant je pensais professeur de français, puis après c'est la philosophie. Parce que quand on est mordu par la philosophie, il n'y a plus moyen de s'en sortir.
Et la philosophie, donnez-moi une petite définition courte.
Oh, c'est tout simplement, nous sommes là tout simplement les héritiers des Grecs et de Socrate, qui le premier pose la question qui bouleverse la culture dans le bassin méditerranéen en Occident. La question, c'est qu'est-ce que cela l'homme ? Tout vient d'un certain sens de là. Brusquement, si vous voulez, Socrate, c'est celui qui focalise la question sur l'homme, non pas sur les éléments. On peut étudier les éléments, etc. Et tout. Aristote sera un très grand naturaliste et autres. Mais centralement, c'est la question sur l'homme. Et alors, si vous voulez, en développant un peu plus, alors après, non pas seulement qu'est-ce que cela l'homme, mais qu'est-ce que cela l'homme si la vie est aussi courte et s'il est menacé par la mort. Voilà, si vous voulez, le centre de ma question.
La mort qui est très, très centrale dans cet écrit, j'ai trouvé. On le retrouve très, très souvent. Vous posez beaucoup, beaucoup de questions par rapport à ça.
Ben, c'est-à-dire, si vous voulez, ben, je vous ferai un aveu. J'ai perdu mon père, j'avais 12 ans. Et ça a été pour moi le tremblement de terre complet, parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents avec qui je m'entendais bien, et un père qui était quelqu'un d'extrêmement exubérant et remarquable, qui nous ouvrait à la poésie, à quantité de choses, et c'est-à-dire à la joie de vivre. Et brusquement, je revois encore ce dimanche matin de décembre à Lyon, là je vois mon père mort sur le lit. Alors là, ça a été... pas tellement ce jour-là, mais quelques temps après, le sentiment de la solitude terrible.
Mmh. Il y a aussi, donc, dans cette première partie, par rapport à la première question qu'elle vous a posée, un chapitre qui m'a bien intéressé, c'est celui que vous avez intitulé « L'exploration de l'héritage ». C'est-à-dire cette façon justement de vous imprégner un petit peu des textes des Grecs anciens, entre autres, des choses comme ça, non ?
C'est-à-dire, si vous voulez, c'est là que j'indique brièvement la différence entre l'autodidacte et l'homme de culture. L'autodidacte s'imagine qu'il va construire un monde. C'est toujours très curieux. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire des livres rédigés par des autodidactes. Ils réinventent le monde et ce sont des choses à ce moment-là qui ne tiennent pas debout. Mais en réalité, si vous êtes un tant soit peu sérieux, vous ne pouvez pas oublier qu'il y a déjà des dizaines et des dizaines d'individus qui ont écrit avant vous, qui ont réfléchi. Alors tout le problème consiste à s'imprégner de cette longue tradition. Longue tradition, non pas tant des réponses que des questions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment les hommes questionnent-ils. Alors, vous vous imprégnez de cela, puis après, vous essayez de prendre la suite. Mais pour devenir écrivain, il faut lire des livres.
Les questions existentielles restent toujours les mêmes, quand même. C'est la façon de les formuler qui est différente.
Alors, elles sont à la fois, si vous voulez, toujours les mêmes et différentes selon les lieux, les temps ou les moments, là. Mais bien évidemment, fondamentalement, c'est la question que je rappelle quelque part, finalement, qu'on trouve dans le plus vieux livre que nous connaissions, l'épopée de Gilgamesh, quand vous voyez Gilgamesh pleurer devant le corps de son ami Enkidu. Est-ce que je vais moi aussi redevenir de l'argile, quoi ? Et alors c'est là finalement, les occupations que les hommes se donnent, on oublie qu'ils sont mortels, il n'y a qu'à regarder comment ils se comportent, et puis brusquement, en fait, la réalité est là, c'est-à-dire que la vie est limitée. Réfléchir sur la vie, c'est réfléchir sur cette limite.
Est-ce que je peux revenir sur ce que vous dites à propos des autodidactes ? Un autodidacte, il peut également s'être formé en lisant ? Non.
Mais à ce moment-là, il n'est plus autodidacte, parce qu'il s'imprègne de l'idée de ce qu'il lit. Il n'est plus complètement autodidacte.
L'autodidacte, vous pensez que c'est celui qui se forme sur le tas, c'est-à-dire qui s'est formé en agissant.
Donc pas avec les idées des autres.
Et puis alors, surtout, en fait, qu'est-ce qui est fécond dans le cheminement de la pensée ? C'est les questions, les objections que les autres vous posent. C'est ça qui fait avancer la pensée. Par le fait même, si vous voulez, on avance donc que dans ce concert de relations, l'autodidacte est très, très souvent un homme seul. Je vous dis, j'ai l'occasion un jour, je ne sais plus, il y a des années de ça, on m'avait donné à lire un ouvrage, je ne sais plus qui était cet individu-là, qui reconstruisait le monde. Alors, vous, les gens qui reconstruisent le monde depuis le point de départ, avec des petits points de repère, ils en ont ça ou là. Évidemment, il n'est pas analphabète, mais je veux dire qu'il ne sait pas repérer un peu la configuration.
Un autre passage du livre qui m'a passionné, c'est le chapitre qui s'intitule « Lecture croisée ». Parce qu'il me touche particulièrement, puisque là, vous faites référence à l'œuvre littéraire et au fait que, quoi que vous disiez, souvent vous m'avez dit « moi, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à lire des romans ». Or, dans cette partie du livre, vous, quand même, vous parlez des romanciers qui vous ont particulièrement marqué, entre autres Dostoïevski, et Proust, Kafka et d'autres.
Ah mais moi, je ne vous ai pas dit que j'avais de la difficulté à lire les romans.
Vous m'avez dit, moi, les romans, c'est pas ma tasse de thé. En gros, c'était ça. J'ai mal compris.
Dans le temps présent, parce que j'ai autre chose à faire. Ah, mais non, alors venez chez moi, je vous montrerai la collection de romans que je peux avoir dans ma bibliothèque. Non, il se trouve, si vous voulez, ceci, je ne me souviens plus le détail et les raisons, c'est qu'au fond, j'ai commencé à lire les livres de philosophie en même temps que les grands romanciers. Alors Dostoïevski, j'ai dû lire ça, j'en sais rien, j'avais 18 ans, c'est Dostoïevski, c'est Peggy, en même temps que Platon et les autres.
Mais est-ce qu'on doit faire une coupure aussi nette entre le roman et la philosophie ? Pas forcément, parce qu'il y a des romans qui répondent à des questions existentielles aussi.
Il n'y a pas
de coupure pour moi.
En un sens, il y a une coupure en un sens que c'est pas écrit de la même manière. Quand vous prenez au niveau des questions, vous avez beaucoup plus de questions chez un Dostoïevski ou un Kafka que chez un fabricant de livres de philosophie ordinaire, quoi. Et c'est là que vous revenez finalement toujours à l'essentiel.
Là, vous faites très plaisir, parce qu'effectivement, moi, j'ai toujours eu l'impression que c'est l'œuvre romanesque qui m'a formé. Personnellement, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus formateur et de plus extraordinaire qu'un bon roman. Mais c'est vrai qu'il y a roman et roman. C'est sûr qu'on peut beaucoup discuter là-dessus.
Non, mais ça, alors là, si vous voulez, il faudrait reprendre la formule que je cite de Kundera, là, quelque part. Le roman donne en quelque sorte la carte de l'existence. Alors, je ne trouve pas que ces livres à lui illustrent véritablement cette formule, mais vous prenez cette formule, vous l'appliquez encore une fois à Kafka, à Dostoïevski et à certains Proust évidemment, quoi, et vous retrouvez très exactement cela. De quoi parle-t-on dans les grands romans, sinon qu'est-ce que c'est que vivre? Et comment s'arrange-t-on à vivre pour que cette vie ait du sens, quoi.
Et il y a un grand chapitre aussi sur la métaphore. Et ça, je l'ai trouvé très, très intéressant. La métaphore, un petit peu comme justement comparaison entre la philosophie et l'œuvre littéraire.
Oui, parce que l'invention de la métaphore, c'est très étonnant, cette chose-là. Les métaphores ordinaires, enfin, il est fort comme un lion, etc. Et tout. Bon, ça, ce sont des images banales. Mais quand vous regardez bien la construction de la métaphore, elle vous présente une certaine partie de la réalité, elle vous la donne à comprendre à partir d'une autre. Alors, la structure de la métaphore, c'est comme... Bon, alors ça peut être très plat et tout à fait banal. En réalité, les grandes métaphores, elles vous ouvrent sur une partie du réel que vous n'arrivez pas à comprendre autrement, quoi. Et de fait, c'est pour ça que j'accorde une très grande importance à la métaphore.
Et vous l'utilisez souvent, quand vous faisiez vos cours, vous utilisez souvent la métaphore?
Ben oui, de la même manière, si vous voulez, que mes cours commençaient par des commentaires de textes de philosophes, ça se poursuivait par des textes littéraires ou psychanalytiques, etc. Je veux dire, si vous voulez, on fait son miel avec tout ce que la culture vous donne.
Et justement, Emmanuel Bruyas, qui est l'auteur de ce livre avec vous, enfin vous êtes l'auteur, mais c'est elle qui vous a titillé, elle dit dans sa préface que c'est comme ça que vous l'avez un petit peu sorti certainement d'une période difficile en cours. Elle a remarqué votre discours différent des autres. Et c'est, je crois, ce qui l'a beaucoup aidé et qui lui a donné envie après elle-même de devenir philosophe. Parce que justement, c'est peut-être par le biais de la métaphore, justement, vous avez eu un discours, justement, je crois, un peu différent de ce qu'elle entendait habituellement. Ah,
alors là, je ne sais pas, pour une raison simple, c'est que je ne m'écoute pas. et même si elle est enregistrée, j'avoue que j'ai difficulté à écouter ma voix. Mais là, pour revenir à cet épisode en question, de fait, ça a été une relation qui est venue très tôt parce que j'avais repéré cette étudiante là qui fixait de manière très attentive et qui regardait, qui grattait tout et tout là. Et puis alors, bon, j'avais donné pour l'épisode là, j'avais donné parmi les sujets de dissertation pour le début de l'année. Pourquoi tout n'est-il pas permis à l'homme ? Elle m'a sorti quelque chose. Alors là, quand je lui ai rendu, je lui ai mis 18 en lui disant « Excusez-moi, je ne peux pas vous mettre moins. » Mais alors, de fait, c'était à la fois très bien écrit. Elle écrit bien, cette femme. Et puis, elle a en même temps très bien argumenté. Et alors, c'est là qu'est née bon, cette...
18, d'abord, c'est rare, hein ?
Oui, j'en ai mis deux fois dans ma à la fac. Là. En terminale, c'est autre chose, mais à la fac, j'en ai mis deux fois. De fait, j'ai rencontré des étudiantes vraiment, vraiment très, 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 très fortes. Ce qui d'ailleurs fait que quand vous savez que dans votre public, vous avez des gens de haut niveau, ça veut dire que le week-end précédent, il faut travailler d'autant plus.
Mais c'est agréable aussi d'avoir des élèves brillants.
Ah, mais c'est
formidable.
Non, mais ça, c'est une stimulation qui est extraordinaire. Moi, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, en venant là, moi, je ne peux pas parler, disons, si je ne vois pas un public, je parle à des regards. Oui. Et alors, on voit dans le regard comment il suit, ne suit pas, il est perdu et
s'il
autres.
Comprend, s'il comprend, s'il adhère.
Un regard qui comprend, mais ça vous donne des ailes. Et ça vous rend plus intelligent vous-même.
Alors, il y a un autre chapitre très, très important, et je crois qu'il, dans votre vie, a été quelque chose de très, très... entre autres, avec votre livre sur René Girard, c'est le problème de la violence.
Ah, oui. Oui, mais je suis encore là-dedans. J'ai repris un autre travail déjà depuis pas mal de temps. J'arrive pas à le terminer là. Et que j'intitule d'ailleurs délibérément le défi de la violence. C'est au fond une question extrêmement simple dans son énoncé, très complexe dans son étude. C'est la question de savoir pourquoi est-ce que la vie se laisse fasciner par la mort. Que la vie soit exubérante, qu'elle soit un peu désordonnée, bon, ben, c'est une chose banale, mais en réalité, il y a quelque chose de plus profond là. Il y a un moment où elle ne peut s'affirmer elle-même qu'à la condition de tuer quelqu'un d'autre. Et ça tourne autour, si vous voulez, dans cette exubérance et le meurtre que je travaille depuis longtemps, parce qu'à la fois, c'est une question individuelle, qui relève de la psyché individuelle, c'est une question qui est sociale, qui est collective, enfin, en un certain sens, pourquoi la guerre et quelles sont les raisons de la guerre, parce que ça cesse de revenir, les guerres.
En ce moment, l'actualité...
Alors là, maintenant, on a des exemples.
Et quand on vous relit, là, je veux dire, on a la télévision comme révélateur de tout ce que vous vous expliquez.
Regardez dans le temps présent cette chose invraisemblable. Que vous croyez en Dieu selon Mahomet, Moïse, Jésus, moi, ça me laisse, c'est tout à fait secondaire. Mais pourquoi, à partir du moment où vous êtes de disciple d'un tel ou d'un tel, faut-il tuer celui qui n'est pas dans votre boutique? Et de fait, alors, bon, les exemples, je vous les donne pas, il y en a tellement présentement, là. Alors là, c'est en un certain sens, si vous voulez, c'est cette affaire de la violence à travers ces différentes manifestations, depuis la violence individuelle jusqu'à celle dans les collectivités, dans la guerre et tout et tout.
Mais surtout, ce qui est impressionnant, c'est que là, on se rend compte que ces violences sont des dérives de la foi, en fait. C'est ça qui est fou, c'est une espèce de fanatisme.
Oui, ça c'est... Alors,
tuer est une chose, tuer au nom de Dieu est encore autre chose pour moi. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais je pense que là... C'est pas pareil.
Ah bah oui, que ce soit deux choses...
Même si la sortie est la même.
Que ce soit une autre chose, alors tout à fait d'accord. Là. Et rassurez-vous, je n'ai tué personne. Là. Il faut faire soin à cet aveu. Mais ce qui était très étonnant, c'est de voir, si vous regardez l'histoire des sociétés et des sociétés religieuses, comment il y a un moment où la croyance religieuse se laisse fasciner par l'absolu et ne supporte rien en face d'elle. Oui. Et c'est au fond toujours, c'est très très ambigu. À la fois, le croyant est celui qui sait, est au service de l'absolu. Et si vous regardez bien, c'est celui qui met la main sur l'absolu parce que ça permet d'asseoir son pouvoir. Et alors, bon, je vous dis, on peut reprendre après, énumérer toutes les guerres de religion, elles sont à peu près toutes pareilles. Pourquoi? Enfin, en dehors des questions secondaires. Les guerres de religion, par exemple, en Allemagne, étaient beaucoup plus d'origine économique que proprement religieuse, quoi. Mais pourquoi donc faudrait-il massacrer celui qui ne partage pas exactement la même formulation que j'ai de la foi ?
Vous posez la question au niveau de la foi, mais en fait, c'est l'idéologie qui tue, que ce soit l'idéologie nazie ou l'idéologie communiste ou toutes les formes d'idéologie, elles tuent de la même façon. C'est pas spécifique pour moi à la religion. C'est l'idéologie, je crois que j'ai raison, donc tu as tort. Et quel que soit le domaine.
Alors, on l'appelle, si vous voulez, idéologie depuis une date plus récente, là. Et idéologie, moi, je reprendrai la définition qu'en donne Hannah Arendt. L'idéologie, c'est la logique de l'idée. Et la logique de l'idée, vous en avez la formulation la plus extraordinaire dans Les Possédés de Dostoïevski. celui qui énonce, je me souviens plus le nom du personnage, énonce un certain nombre d'idées, et en vertu de quoi il ne peut aboutir qu'à la mort de l'autre, là. Alors, dans le XXe siècle, alors, on a connu effectivement ces fameuses idéologies complètement folles, mais en réalité, si vous voulez, ça vient beaucoup plus profondément de cette espèce de, disons, de crispation de la croyance sur elle-même. Je crois, ça veut dire que tout ce qui est extérieur à moi est faux. Il faut, et donc, alors, à ce moment-là, à combattre, etc., et tout, et tout. Alors, vous inventez les goulags pour rééduquer les individus, dit-on, etc.
Les fours à gaz pour...
Mais c'est, en fait, un comportement qui est très ancien. Je vous dis, là, c'est toujours l'ambiguïté de la croyance, parce que lorsque je dis « je crois », ça veut dire « je me rapporte à », mettons un Dieu, une formulation de Dieu, et j'ai toujours, le risque est permanent de s'enfermer dans cette formulation que moi j'ai énoncée. Je crois, ça veut dire que si vous variez par rapport à ce que je crois, vous êtes à ce moment-là mon ennemi.
Est-ce que notre société, qui est très individualiste, aussi ne favorise pas ce risque? Parce que les gens sont persuadés qu'ils ont toujours raison. Enfin, il y a un mouvement quand même, c'est un petit peu... Vous n'avez pas l'impression qu'avec la pression des médias, tout ce qu'on voit, on a beaucoup d'images, beaucoup d'informations. Ce que vous disiez tout à l'heure, sur les autres, même l'autodidacte est persuadé qu'il sait.
Remarquez, c'est plus ancien, parce qu'avant, vous n'aviez pas la télévision et autres, et vous aviez néanmoins des conflits terribles entre groupes, mettons, politiques ou religieux. Oui. Là, simplement, vous avez des variantes. Oui. Mais la constante, c'est cette espèce d'affirmation dévoratrice de ce qui n'est pas soi-même, quoi.
Alors, il nous reste quelques minutes, peut-être vous pourriez, parce qu'il y avait un autre livre dont j'aurais bien aimé parler. Enfin bon, on est tellement passionnés qui s'appelle Devant Dieu. Donc là, on est vraiment devant l'essentiel de la question, l'homme devant Dieu. Et cette proximité et en même temps cette distance, qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour conclure? Parce que là, on est à la conclusion de notre interview.
Alors à ce moment-là, il faut faire une deuxième émission. Voilà. Les articles que j'ai réunis là m'ont tous été demandés par différentes revues. Bon, ensuite... Je dirais que je les ai toujours centrés sur cette question qui pour moi est essentielle. Qu'est-ce que c'est que se tenir devant Dieu? Alors on peut le prendre à différents niveaux en se référant à différents textes, mais qu'est-ce que c'est que se tenir devant cet appel-là? Et là, le point central pour moi, c'est l'espérance. Là, je suis, alors là, vous aurez reconnu, ma filiation spirituelle avec Peggy, la plus grande des vertus, c'est l'espérance, parce que c'est celle qui attend en dépit d'eux. Et tout simplement, parce que quand on est suffisamment, vous évoquiez mon rapport à la mort là tout à l'heure, quand vous êtes travaillé par le mal et la mort, à ce moment-là, l'espérance prend d'autant plus d'importance, quoi.
C'est un beau message d'espérance que François Chirpaz nous donne. Je vous recommande la lecture, on n'a pas pu en parler beaucoup, mais ce livre qui s'appelle « Devant Dieu », qui est paru à l'Harmattan, écrit par François Chirpaz. Et Pascal vous a parlé de...
De François Chirpaz, « Chemin de philosophie », c'est un petit peu tout votre cheminement de pensée. C'est un entretien avec une de vos anciennes élèves, Emmanuel Brouillas, et c'est également absolument passionnant, paru à l'Harmattan également.
Merci François Chirpaz d'être venu nous parler de façon aussi brillante. Voilà.
Grazie, c'est moi qui vous remercie. Non, je le dis toujours, j'aime bien remercier en italien ou en espagnol, parce que je trouve que c'est plus beau que le mot merci français, ça veut dire que l'on rend grâce. Voilà la raison pour laquelle, même si je ne parle pas l'italien, je le parle en l'occurrence.
Merci.